Émile Zola, Rome. Chapitre 1. Pendant la nuit, le train avait eu de grands retards entre Pise et Civita Vecchia, et il allait être 9 heures du matin lorsque l'abbé Pierre Froment, après un dur voyage de 25 heures, débarqua enfin à Rome. Il n'avait emporté qu'une valise, il sauta vivement du wagon au milieu de la bousculade de l'arrivée, écartant les porteurs qui s'empressaient, se chargeant lui-même de son léger bagage, dans la hâte qu'il éprouvait d'être arrivé, de se sentir seul et de voir. Et tout de suite, devant la gare, sur la place des 500, étant monté dans une des petites voitures découvertes, rangées le long du trottoir, il posa la valise près de lui, après avoir donné l'adresse au cocher. « Via Giulia, Palazzo Boccanera. » C'était un lundi, le 3 septembre, par une matinée de ciel clair, d'une douceur, d'une légèreté délicieuse. Le cocher, un petit homme rond, aux yeux brillants, aux dents blanches, avait eu un sourire en reconnaissant un prêtre français, à l'accent. Il fouetta son maigre cheval, la voiture partit avec la vive allure de ses fiacres romains, si propres, si gais. Mais presque aussitôt, après avoir longé les verdures du petit square, arrivé sur la place des Thermes, il se retourna, souriant toujours, désignant de son fouet des ruines, « les Thermes de Dioclétien », dit-il en un mauvais français de cocher obligeant, désireux de plaire aux étrangers pour s'assurer leur clientèle. Des hauteurs du Viminal, où se trouve la gare, la voiture descendit au grand trot la pente raide de la rue Nationale. Et dès lors, il ne cessa plus. Il tourna la tête à chaque monument, le montra du même geste. Dans ce bout de large voie, il n'y avait que des bâtisses neuves. Sur la droite, plus loin, montaient des massifs de verdure, en haut desquels s'allongeait un interminable bâtiment jaune et nu, couvent ou caserne. « Le Quirinal, le palais du roi !» dit le cocher. Pierre, depuis une semaine que son voyage était décidé, passait des jours à étudier la topographie de Rome sur des plans et dans des livres. Aussi aurait-il pu se diriger sans avoir à demander son chemin, et les explications le trouvaient prévenu. Ce qui le déroutait pourtant, c'était ces pentes soudaines, ces continuelles collines qui étagent en terrasse certains quartiers. Mais la voix du cocher se haussa, bien qu'un peu ironique, et le mouvement de son fouet se fit plus ample, lorsque sur la gauche, il nomma une immense construction, fraîche et crayeuse encore, tout un pâté gigantesque de pierres, surchargé de sculptures, de frontons et de statues. La Banque Nationale. Plus bas, comme la voiture tournait sur une place triangulaire, Pierre, qui levait les yeux, fut ravi en apercevant, très haut, supporté par un grand mur lisse, un jardin suspendu, d'où se dressait, dans le ciel limpide, l'élégant et vigoureux profil d'un pin parasol centenaire. Il sentit toute la fierté et toute la grâce de Rome. La villa Aldobrandini. Puis ce fut, plus bas encore, une vision rapide qui acheva de le passionner. La rue faisait de nouveau un coup de brusque lorsque, dans l'angle, une trouée de lumière se produisit. C'était, en contrebas, une place blanche, comme un puits de soleil empli d'une aveuglante poussière d'or. Et dans cette gloire matinale s'érigeait une colonne de marbre géante, toute dorée du côté où l'astre la baignait à son lever depuis des siècles. Il fut surpris quand le cocher la lui nomma, car il ne se l'était pas imaginé ainsi dans ce trou d'éblouissement au milieu des ombres voisines. La colonne Trajane. Au bas de la pente, la rue Nationale tournait une dernière fois. Et ce furent encore des noms jetés au trot vif du cheval. Le Palais Colonna, dont le jardin est bordé de maigres cyprès. Le palais Torlonia, à demi éventré pour les embellissements nouveaux. Le palais de Venise, nu et redoutable, avec ses murs crénelés, sa sévérité tragique de forteresse du Moyen-Âge, oubliée là dans la vie bourgeoise d'aujourd'hui. La surprise de Pierre augmentait devant l'aspect inattendu des choses. Mais le coup fut rude surtout lorsque le cocher, de son fouet, lui indiqua triomphalement le Corso. Une longue rue étroite, à peine aussi large que notre rue Saint-Honoré, blanche de soleil à gauche, noire d'ombre à droite, et au bout de laquelle la lointaine place du peuple faisait comme une étoile de lumière. Était-ce donc là le cœur de la ville, la promenade célébrée, la voie vivante où affluait tout le sang de Rome? Déjà, la voiture s'engageait dans le cours Victor-Emmanuel, qui continue la rue nationale. Les deux trouées dont on a coupé l'ancienne cité de part en part, de la gare au pont Saint-Ange. À gauche, l'abside ronde du Gesù était toute blonde de gaieté matinale. Puis, entre l'église et le lourd palais Altieri, qu'on n'avait point osé jeter bas, la rue s'étranglait, on entrait dans une ombre humide, glaciale. Et au-delà, devant la façade du Gesù, sur la place, le soleil recommençait, éclatant, déroulant ses nappes dorées. Tandis qu'au loin, au fond de la rue d'Arakeli, noyée d'ombre également, des palmiers ensoleillés apparaissaient. « Le Capitole, là-bas, » dit le cocher. Le prêtre se pencha vivement. Mais il ne vit que la tache verte au bout du ténébreux couloir. Il était pénétré comme d'un frisson par ces alternatives soudaines de chaude lumière et d'ombre froide. Devant le palais de Venise, devant le Gesù, il lui avait semblé que toute la nuit des jours anciens lui glaçait les épaules. Puis, c'était, à chaque place, à chaque élargissement des voies nouvelles, une rentrée dans la lumière, dans la douceur gaie et tiède de la vie. Les coups de soleil jaune tombaient des toitures, découpaient nettement les ombres violâtres. Entre les façades, on apercevait des bandes de ciel très bleu et très doux. Et il trouvait à l'air qu'il respirait un goût spécial, encore indéterminé, un goût de fruit qui augmentait en lui la fièvre de l'arrivée. Malgré son irrégularité, c'est une fort belle voie moderne que le cours Victor-Emmanuel. Et Pierre pouvait se croire dans une grande ville quelconque, aux vastes bâtisses de rapport. Mais quand il passa devant la chancellerie, le chef-d'œuvre de Bramante, le monument type de la Renaissance romaine, son étonnement revint. Son esprit retourna au palais qu'il venait déjà d'entrevoir, à cette architecture nue, colossale et lourde, ces immenses cubes de pierre, pareils à des hôpitaux ou à des prisons. Jamais il ne se serait imaginé ainsi les fameux palais romains, sans grâce ni fantaisie, sans magnificence extérieure. C'était évidemment fort beau, et il finirait par comprendre, mais il devrait y réfléchir. Brusquement, la voiture quitta le populeux cours Victor-Emmanuel, pénétra dans des ruelles tortueuses où elle avait peine à passer. Le calme s'était fait, le désert, la vieille ville endormie et glaciale, au sortir du clair soleil et des foules de la ville nouvelle. Il se rappela les plans consultés. Il se dit qu'il approchait de la Via Giulia. Et sa curiosité qui avait grandi s'accrut alors jusqu'à le faire souffrir, désespéré de ne pas en voir, de ne pas en savoir tout de suite davantage. Dans l'état de fièvre où il était depuis son départ, les étonnements qu'il éprouvait à ne pas trouver les choses telles qu'il les avait attendues, les chocs que venait de recevoir son imagination, aggravaient sa passion, le jetaient au désir aigu et immédiat de se contenter. 9 heures sonnaient à peine, il avait toute la matinée pour se présenter au palais Boccanera. Pourquoi ne se faisait-il pas conduire sur le champ à l'endroit classique, au sommet d'où l'on voyait Rome entière étalée sur les 7 collines? Quand cette pensée fut entrée en lui, elle le tortura. Il finit par céder. Le cocher ne se retournait plus, et Pierre dut se soulever pour lui crier la nouvelle adresse. « À San Pietro, in Montorio !» D'abord, l'homme s'étonna, parut ne pas comprendre. D'un signe de son fouet, il indiqua que c'était là-bas, au loin. Enfin, comme le prêtre insistait, il se remit à sourire complaisamment avec un branle amical de la tête. « Bon, bon, il voulait bien, lui !» Et le cheval repartit, d'un train plus rapide, au milieu du dédale des rues étroites. On en suivit une, étranglée entre de hauts murs, où le jour descendait comme au fond d'une tranchée. Puis, au bout, il y eut une rentrée soudaine en plein soleil. On traversa le Tibre, sur l'antique pont de Sixte IV, tandis qu'à droite et à gauche s'étendaient les nouveaux quais, dans le ravage et les plâtres neufs des constructions récentes. De l'autre côté, le Transtévère, lui aussi, était éventré, et la voiture monta la pente du Janicule par une voie large qui portait, sur de grandes plaques, le nom de Garibaldi. Une dernière fois, le cocher eut son geste d'orgueil bon enfant en nommant cette voie triomphale « Via Garibaldi ». Le cheval avait dû ralentir le pas, et Pierre, pris d'une impatience enfantine, se retournait pour voir, à mesure que la ville derrière lui s'étendait et se découvrait davantage. La montée était longue. Des quartiers surgissaient toujours jusqu'aux lointaines collines. Puis, dans l'émotion croissante qui faisait battre son cœur, il trouva qu'il gâtait la satisfaction de son désir en l'émiettant ainsi à cette conquête lente et partielle de l'horizon. Il voulait recevoir le coup en plein front. Rome entière vue d'un regard, la ville sainte ramassée, embrassée d'une seule étreinte. Et il eut la force de ne plus se retourner, malgré l'élan de tout son être. En haut, il y a une vaste terrasse. L'église San Pietro in Montorlo se trouve là, à l'endroit où Saint Pierre, dit-on, fut crucifié. La place est nue et rousse, cuite par les grands soleils d'été. Pendant qu'un peu plus loin, derrière, les eaux claires et grondantes de l'Acqua Paola tombent à gros bouillons des trois vasques de la fontaine monumentale, dans une éternelle fraîcheur. Et le long du parapet qui borde la terrasse, à pic sur le Transtévère, s'alignent toujours des touristes, des Anglais minces, des Allemands carrés, béants d'admiration traditionnelle, leur guide à la main, qu'ils consultent pour reconnaître les monuments. Pierre sauta lestement de la voiture, laissant sa valise sur la banquette, faisant signe d'attendre au cocher, qui alla se ranger près des autres fiacres et qui resta philosophiquement sur son siège, au plein soleil, la tête basse comme son cheval, tous deux résignés d'avance à la longue station accoutumée. Et Pierre, déjà, regardait de toute sa vue, de toute son âme, debout contre le parapet, dans son étroite soutane noire, les mains nues et serrées nerveusement, brûlantes de sa fièvre. Rome, Rome, la ville des Césars, la ville des papes, la ville éternelle qui deux fois a conquis le monde. La ville prédestinée du rêve ardent qu'il faisait depuis des mois. Elle était là, enfin. Il la voyait. Des orages les jours précédents avaient abattu les grandes chaleurs d'août. Cette admirable matinée de septembre fraîchissait dans le bleu léger du ciel sans tache, infini. Et c'était une Rome noyée de douceur, une Rome du songe, qui semblait s'évaporer au clair soleil matinal. Une fine brume bleuâtre flottait sur les toits des bas quartiers, mais à peine sensible d'une délicatesse de gaze, tandis que la campagne immense, les monts lointains, se perdait dans du rose pâle. Il ne distingua rien d'abord. Il ne voulait s'arrêter à aucun détail. Il se donnait à Rome entière, au colosse vivant, couché là devant lui, sur ce sol fait de la poussière des générations. Chaque siècle en avait renouvelé la gloire, comme sous la sève d'une immortelle jeunesse. Et ce qui le saisissait, ce qui faisait battre son cœur plus fort, à grands coups dans cette première rencontre, c'était qu'il trouvait Rome telle qu'il la désirait, matinale et rajeunie, d'une gaieté envolée, immatérielle presque, toute souriante de l'espoir d'une vie nouvelle, à cette aube si pure d'un beau jour. Alors, Pierre, immobile et debout devant l'horizon sublime, les mains toujours serrées et brûlantes, revécut en quelques minutes les trois dernières années de sa vie. Ah ! Quelle année terrible, la première, celle qu'il avait passée au fond de sa petite maison de Neuilly, portes et fenêtres closes, terré là, comme un animal blessé qui agonise. Il revenait de Lourdes, l'âme morte, le cœur saignant, n'ayant plus en lui que de la cendre. Le silence et la nuit s'étaient faits sur les ruines de son amour et de sa foi. Des jours et des jours s'écoulèrent sans qu'il entendît ses veines battre, sans qu'une lueur se levât, éclairant les ténèbres de son abandon. Il vivait machinalement. Il attendait d'avoir le courage de se reprendre à l'existence, au nom de la raison souveraine qui lui avait fait tout sacrifier. Pourquoi donc n'était-il pas plus résistant et plus fort? Pourquoi ne conformait-il pas sa vie tranquillement à ses certitudes nouvelles? Puisqu'il refusait de quitter la soutane, fidèle à un amour unique et par dégoût du parjure, pourquoi ne se donnait-il pas pour besogne quelque science permise à un prêtre, l'astronomie ou l'archéologie? Mais quelqu'un pleurait en lui, sa mère sans doute, une immense tendresse éperdue que rien n'avait assouvie encore, qui se désespérait sans fin de ne pouvoir se contenter. C'était la continuelle souffrance de sa solitude, la plaie restée vive dans la haute dignité de sa raison reconquise. Puis, un soir d'automne, par un triste ciel de pluie, le hasard le mit en relation avec un vieux prêtre, l'abbé Rose, vicaire à Sainte-Marguerite, dans le faubourg Saint-Antoine. Il alla le voir au fond du rez-de-chaussée humide qu'il occupait, rue de Charonne, trois pièces transformées en asile pour les petits enfants abandonnés qu'il ramassait dans les rues voisines. Et dès ce moment, sa vie changea. Un intérêt nouveau et tout-puissant y était entré. Il devint l'aide, peu à peu passionné, du vieux prêtre. Le chemin était long, de Neuilly à la rue de Charonne. D'abord, il ne le fit que deux fois par semaine. Puis, il se dérangea tous les jours. Il partait le matin pour ne rentrer que le soir. Les trois pièces ne suffisant plus, il avait loué le premier étage. Il s'y était réservé une chambre où il finit par coucher souvent. Et toutes ses petites rentes passaient là, dans ce secours immédiat donné à l'enfance pauvre. Et le vieux prêtre, ravi, touché aux larmes de ce jeune dévouement qui lui tombait du ciel, l'embrassait en pleurant, l'appelait l'enfant du bon Dieu. La misère, la scélérate et abominable misère, Pierre alors la connut, vécut chez elle, avec elle, pendant deux années. Cela commença par ces petits êtres qu'il ramassait sur le trottoir, que la charité des voisins lui amenait, maintenant que l'asile était connu du quartier. Des garçonnets, des fillettes, des tout-petits tombés à la rue, pendant que les pères et les mères travaillaient, buvaient ou mouraient. Souvent le père avait disparu, la mère se prostituait. L'ivrognerie et la débauche étaient entrées au logis avec le chômage. Et c'était la nichée au ruisseau, les plus jeunes crevant de froid et de faim sur le pavé, les autres s'envolant pour le vice et le crime. Un soir, rue de Charonne, sous les roues d'un fardier, il avait retiré deux petits garçons, deux frères, qui ne purent même lui donner une adresse, venus il ne savait d'où. Un autre soir, il rentra avec une petite fille dans ses bras, un petit ange blond de 3 ans à peine, trouvé sur un banc et qui pleurait en disant que sa maman l'avait laissé là. Et plus tard, forcément, de ces maigres et pitoyables oiseaux culbutés du nid, il remonta aux parents. Il fut amené à pénétrer de la rue dans les bouges, s'engageant chaque jour davantage dans cet enfer, finissant par en connaître toute l'épouvante horreur, le cœur saignant et perdu d'angoisse terrifiée et de charité vaine. Ah, la dolente cité de la misère, l'abîme sans fond de la déchéance et de la souffrance humaine. Quels voyages effroyables il y fit pendant ces 2 années qui bouleversèrent son être. Dans ce quartier Sainte-Marguerite, au sein même de ce faubourg Saint-Antoine, si actif, si courageux à la besogne, il découvrit des maisons sordides, des ruelles entières de masures sans jour, sans air, d'une humidité de cave, où croupissait, où agonisait, empoisonnée, toute une population de misérables. Le long de l'escalier branlant, les pieds glissaient sur les ordures amassées. À chaque étage recommençait le même dénuement, tombé à la saleté, à la promiscuité la plus basse. Des vitres manquaient, le vent faisait rage, la pluie entrait à flots. Beaucoup couchaient sur le carreau nu, sans jamais se dévêtir. Pas de meubles, pas de linge, une vie de bête qui se contente et se soulage comme elle peut, au hasard de l'instinct et de la rencontre. Là-dedans, en tas, tous les sexes, tous les âges, l'humanité revenue à l'animalité par la dépossession de l'indispensable, par une indigence telle qu'on s'y disputait à coups de dents les miettes balayées de la table des riches. Et le pis y était cette dégradation de la créature humaine, non plus le libre sauvage qui allait nu, chassant et mangeant sa proie dans les forêts primitives, mais l'homme civilisé retourné à la brute, avec toute l'étare de sa déchéance, souillé, enlaidi, affaibli, au milieu du luxe et des raffinements d'une cité reine du monde. Pierre, dans chaque ménage, retrouvait la même histoire. Au début, il y avait eu de la jeunesse, de la gaieté, la loi du travail acceptée courageusement. Puis la lassitude était venue. Toujours travailler pour ne jamais être riche, à quoi bon? L'homme avait bu pour le plaisir d'avoir sa part de bonheur. La femme s'était relâchée des soins du ménage, buvant elle aussi parfois, laissant les enfants pousser au hasard. Le milieu déplorable, l'ignorance et l'entassement avaient fait le reste. Plus souvent encore, le chômage était le grand coupable. Il ne se contente pas de vider le tiroir aux économies. Il épuise le courage, il habitue à la paresse. Pendant des semaines, les ateliers se vident, les bras deviennent mous. Impossible dans ce Paris si enfiévré d'action de trouver la moindre besogne à faire. Le soir, l'homme rentre en pleurant, ayant offert ses bras partout, n'ayant pas même réussi à être accepté pour balayer les rues, car l'emploi est recherché, il y faut des protections. N'est-ce pas monstrueux? Sur ce pavé de la grande ville où resplendissent, où retentissent les millions, un homme qui cherche du travail pour manger et qui ne trouve pas et qui ne mange pas. La femme ne mange pas, les enfants ne mangent pas. Alors, c'était la famine noire, l'abrutissement, puis la révolte, tous les liens sociaux rompus sous cette affreuse injustice de pauvres êtres que leur faiblesse condamnait à la mort. Et le vieil ouvrier, celui dont 50 années de dur labeur avaient usé les membres, sans qu'il pût mettre un sou de côté, sur quel grabat d'agonie tombait-il pour mourir? Au fond de quelle soupente? Fallait-il donc l'achever d'un coup de marteau comme une bête de somme fourbue, le jour où, ne travaillant plus, il ne mangeait plus. Presque tous allaient mourir à l'hôpital. D'autres disparaissaient, ignorés, emportés dans le flot boueux de la rue. Un matin, au fond d'une hutte infâme, sur de la paille pourrie, Pierre en découvrit un, mort de faim, oublié là depuis une semaine, et dont les rats avaient dévoré le visage. Mais ce fut un soir du dernier hiver que sa pitié déborda. L'hiver, les souffrances des misérables deviennent atroces dans les taudis sans feu où la neige entre par les fentes. La Seine charrie, le sol couvert de glace, toutes sortes d'industries sont forcées de chômer. Dans les cités des chiffonniers, réduits au repos, des bandes de gamins s'en vont pieds nus, vêtus à peine, affamés et toussants, emportés par de brusques rafales de phtisie. Ils trouvaient des familles, des femmes avec des 5 et 6 enfants, blottis en tas pour se tenir chaud, et qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Et ce fut le soir terrible, lorsque, le premier, il pénétra, au fond d'une allée sombre, dans la chambre d'épouvante, où une mère venait de se suicider avec ses 5 petits, de désespoir et de faim. Un drame de la misère dont tout Paris allait frissonner pendant quelques heures. Plus un meuble, plus un linge, tout avait dû être vendu, pièce à pièce, chez le brocanteur voisin. Rien que le fourneau de charbon fumant encore. Sur une paillasse à moitié vide, la mère était tombée en allaitant son dernier né, un nourrisson de 3 mois. Et une goutte de sang perlait au bout du sein, vers lequel se tendaient les lèvres avides du petit mort. Les 2 fillettes, 3 ans et 5 ans, 2 blondines jolies, dormaient aussi là, leur éternel sommeil, côte à côte. Tandis que les 2 garçons, plus âgés, l'un s'était anéanti, la tête entre les mains, accroupi contre le mur, pendant que l'autre avait agonisé par terre, en se débattant, comme s'il s'était traîné sur les genoux pour ouvrir la fenêtre. Des voisins accourus raconter la banale, l'affreuse histoire. Une lente ruine, le père ne trouvant pas de travail, glissant à la boisson peut-être, le propriétaire là d'attendre, menaçant le ménage d'expulsion, et la mère, perdant la tête, voulant mourir, décidant sa nichée à mourir avec elle, pendant que son homme, sorti depuis le matin, battait vainement le pavé. Comme le commissaire arrivait pour les constatations, ce misérable rentra, et quand il eut vu, quand il eut compris, il s'abattit, ainsi qu'un bœuf assommé. Il se mit à hurler d'une plainte incessante, un tel cri de mort que toute la rue terrifiée en pleurait. Ce cri horrible de race condamnée qui s'achève dans l'abandon et dans la faim, Pierre l'avait emporté au fond de ses oreilles, au fond de son cœur, et il ne put manger, il ne put s'endormir ce soir-là. Était-ce possible une abomination pareille, un dénuement si complet, la misère noire aboutissant à la mort, au milieu de ce grand Paris, regorgeant de richesses, ivre de jouissances, jetant pour le plaisir les millions à la rue? Quoi, d'un côté de si grosses fortunes, tant d'inutiles caprices satisfaits, des vies comblées de tous les bonheurs? De l'autre, une pauvreté acharnée, pas même du pain, aucune espérance, les mères se tuant avec leurs nourrissons, auxquels elles n'avaient plus à donner que le sang de leurs mamelles taries. Et une révolte le souleva. Il eut un instant conscience de l'inutilité dérisoire de la charité. À quoi bon faire ce qu'il faisait? Ramasser les petits, porter des secours aux parents, prolonger les souffrances des vieux. L'édifice social était pourri à la base. Tout allait crouler dans la boue et dans le sang. Seul un grand acte de justice pouvait balayer l'ancien monde pour reconstruire le nouveau. Et à cette minute, il sentit si nettement la cassure irréparable, le mal sans remède, le chancre de la misère sûrement mortel, qu'il comprit les violents. Prêt lui-même à accepter l'ouragan dévastateur et purificateur, la terre régénérée par le fer et les feux, comme autrefois, lorsque le dieu terrible envoyait l'incendie pour assainir les villes maudites. Mais l'abbé Rose, ce soir-là, en l'entendant sangloter, monta le gronder paternellement. C'était un saint, d'une douceur et d'un espoir infini. Désespéré, grand Dieu, quand l'Évangile était là, est-ce que la divine maxime « Aimez-vous les uns les autres » ne suffisait pas au salut du monde? Il avait l'horreur de la violence, et il disait que, si grand que fût le mal, on en viendrait tout de même bien vite à bout, le jour où l'on retournerait en arrière, à l'époque d'humilité, de simplicité et de pureté, lorsque les chrétiens vivaient en frères innocents. Quelle délicieuse peinture il faisait de la société évangélique, dont il évoquait le renouveau avec une gaieté tranquille, comme si elle devait se réaliser le lendemain. Et Pierre finit par sourire, par se plaire à ce beau conte consolateur, dans son besoin d'échapper au cauchemar affreux de la journée. Ils causèrent très tard, ils reprirent les jours suivants ce sujet de conversation que le vieux prêtre chérissait, abondant toujours en nouveaux détails, parlant du règne prochain, de l'amour et de la justice, avec la conviction touchante d'un brave homme qui était certain de ne pas mourir sans avoir vu Dieu sur la terre. Alors, chez Pierre, une évolution nouvelle se fit. La pratique de la charité, dans ce quartier pauvre, l'avait amené à un attendrissement immense. Son cœur défaillait, éperdu, meurtri de cette misère qu'il désespérait de jamais guérir. Et, sous ce réveil du sentiment, il sentait parfois céder sa raison. Il retournait à son enfance, à ce besoin d'universelle tendresse que sa mère avait mis en lui, imaginant des soulagements chimériques, attendant une aide des puissances inconnues. Puis, sa crainte, sa haine de la brutalité des faits acheva de le jeter au désir croissant du salut par l'amour. Il était grand temps de conjurer l'effroyable catastrophe inévitable, la guerre fratricide des classes qui emporterait le vieux monde, condamné à disparaître sous l'amas de ses crimes. Dans la conviction où il était que l'injustice se trouvait à son comble, que l'heure vengeresse allait sonner où les pauvres forceraient les riches au partage, il se plut dès lors à rêver une solution pacifique, le baiser de paix entre tous les hommes, le retour à la morale pure de l'Évangile tel que Jésus l'avait prêché. D'abord, des doutes le torturèrent. Était-ce possible ce rajeunissement de l'antique catholicisme? Allait-on pouvoir le ramener à la jeunesse, à la candeur du christianisme primitif? Il s'était mis à l'étude, lisant, questionnant, se passionnant de plus en plus pour cette grosse question du socialisme catholique qui, justement, menait grand bruit depuis quelques années. Et, dans son amour frissonnant des misérables, préparé comme il l'était au miracle de la fraternité, il perdait peu à peu les scrupules de son intelligence. Il se persuadait que le Christ, une seconde fois, devait venir racheter l'humanité souffrante. Enfin, cela se formula nettement dans son esprit, en cette certitude que le catholicisme épuré, ramené à ses origines, pouvait être l'unique pacte, la loi suprême qui sauverait la société actuelle en conjurant la crise sanglante dont elle était menacée. 2 années auparavant, lorsqu'il avait quitté Lourdes, révolté par toute cette basse idolâtrie, la foi morte à jamais et l'âme inquiète pourtant devant l'éternel besoin du divin qui tourmente la créature, un cri était monté en lui, du plus profond de son être. Une religion nouvelle! Une religion nouvelle! Et aujourd'hui, c'était cette religion nouvelle, ou plutôt cette religion renouvelée, qu'il croyait avoir découverte, dans un but de salut social, utilisant pour le bonheur humain la seule autorité morale debout, la lointaine organisation du plus admirable outil qu'on ait jamais forgé pour le gouvernement des peuples. Durant cette période de lente formation que Pierre traversa, deux hommes, en dehors de l'abbé Rose, eurent une grande influence sur lui. Une bonne œuvre l'avait mis en rapport avec Monseigneur Bergerot, un évêque dont le pape venait de faire un cardinal, en récompense de toute une vie d'admirable charité, malgré la sourde opposition de son entourage qui flairait chez le prélat français un esprit libre, gouvernant en pair son diocèse. Et Pierre s'enflamma davantage au contact de cet apôtre, de ce pasteur d'âme, un de ses chefs simples et bons, tels qu'il les souhaitait à la communauté future. Mais la rencontre qu'il fit du vicomte Philibert de la Choue, dans des associations catholiques d'ouvriers, fut encore plus décisive pour son apostolat. Le vicomte, un bel homme, d'allure militaire, à la face longue et noble, gâté par un nez cassé et trop petit, ce qui semblait indiquer l'échec final d'une nature mal d'aplomb, était un des agitateurs les plus actifs du socialisme catholique français. Il possédait de grands domaines, une grande fortune, bien qu'on racontât que des entreprises agricoles malheureuses lui en avaient emporté déjà près de la moitié. Dans son département, il s'était efforcé d'installer des fermes modèles où il avait appliqué ses idées en matière de socialisme chrétien, et il ne semblait guère non plus que le succès l'encourageât. Seulement, cela lui avait servi à se faire nommer député, et il parlait à la Chambre. Il y exposait le programme du parti, en longs discours retentissants. D'ailleurs, d'une ardeur infatigable, il conduisait des pèlerinages à Rome. Il présidait des réunions, faisait des conférences, se donnait surtout au peuple, dont la conquête, disait-il dans l'intimité, pouvait seule assurer le triomphe de l'Église. Et il eut de la sorte une action considérable sur Pierre, qui admirait naïvement en lui les qualités dont il se sentait dépourvu. Un esprit d'organisation, une volonté militante, un peu brouillonne, tout entière appliquée à recréer en France la société chrétienne. Le jeune prêtre apprit beaucoup dans sa fréquentation, mais il resta quand même le sentimental, le rêveur, dont l'envolée, dédaigneuse des nécessités politiques, allait droit à la cité future du bonheur universel. Tandis que le vicomte avait la prétention d'achever la ruine de l'idée libérale de 1789, en utilisant pour le retour au passé la désillusion et la colère de la démocratie. Pierre passa des mois enchantés. Jamais néophyte n'avait vécu si absolument pour le bonheur des autres. Il fut tout amour, il brûla de la passion de son apostolat. Ce peuple misérable qu'il visitait, ces hommes sans travail, ces mères, ces enfants sans pain, le jetaient à la certitude de plus en plus grande qu'une nouvelle religion devait naître pour faire cesser une injustice dont le monde révolté allait violemment mourir. Et cette intervention du divin, cette renaissance du christianisme primitif, il était résolu à y travailler, à la hâter de toutes les forces de son être. Sa foi catholique restait morte, il ne croyait toujours pas aux dogmes, aux mystères, aux miracles. Mais un espoir lui suffisait, celui que l'Église put encore faire du bien en prenant en main l'irrésistible mouvement démocratique moderne, afin d'éviter aux nations la catastrophe sociale menaçante. Son âme s'était calmée, depuis qu'il se donnait cette mission, de remettre l'évangile au cœur du peuple affamé et grondant des faubourgs. Il agissait, il souffrait moins de l'affreux néant qu'il avait rapporté de Lourdes. Et comme il ne s'interrogeait plus, l'angoisse de l'incertitude ne le dévorait plus. C'était avec la sérénité d'un simple devoir accompli qu'il continuait à dire sa messe. Même, il finissait par penser que le mystère qu'il célébrait ainsi, que tous les mystères et tous les dogmes, n'étaient en somme que des symboles, des rites nécessaires à l'enfance de l'humanité, et dont on se débarrasserait plus tard, lorsque l'humanité grandie, épurée, instruite, pourrait supporter l'éclat de la vérité nue. Et Pierre, dans son zèle d'être utile, dans sa passion de crier tout haut sa croyance, s'était trouvé un matin à sa table, écrivant un livre. Cela était venu naturellement. Ce livre sortait de lui comme un appel de son cœur, en dehors de toute idée littéraire. Le titre, une nuit qu'il ne dormait pas, avait brusquement flamboyé dans les ténèbres. La Rome nouvelle. Et cela disait tout, car n'était-ce pas de Rome, l'Éternelle et la Sainte, que devait partir le rachat des peuples ? L'unique autorité existante se trouvait là. Le rajeunissement ne pouvait naître que de la terre sacrée où avait poussé le vieux chêne catholique. En 2 mois, il écrivit ce livre, qu'il préparait depuis 1 an sans en avoir conscience, par ses études sur le socialisme contemporain. C'était en lui comme un bouillonnement de poète. Il lui semblait parfois rêver ses pages, tandis qu'une voix intérieure et lointaine les lui dictait. Souvent, lorsqu'il lisait au vicomte Philibert de la Choue les lignes écrites la veille, celui-ci les approuvait vivement, au point de vue de la propagande, en disant que le peuple avait besoin d'être ému pour être entraîné, et qu'il aurait fallu aussi composer des chansons pieuses, amusantes pourtant, qu'on aurait chantées dans les ateliers. Quant à Monseigneur Bergerot, sans examiner le livre au point de vue du dogme, il fut touché profondément du souffle ardent de charité qui sortait de chaque page. Il commit même l'imprudence d'écrire une lettre approbative à l'auteur en l'autorisant à la mettre comme préface en tête de l'œuvre. Et c'était cette œuvre, publiée en juin, que la congrégation de l'Index allait frapper d'interdiction. C'était pour la défense de cette œuvre que le jeune prêtre venait d'accourir à Rome, plein de surprise et d'enthousiasme, tout enflammé du désir de faire triompher sa foi, résolu à plaider sa cause lui-même devant le Saint-Père, dont il était convaincu d'avoir exprimé simplement les idées. Pendant que Pierre revivait ainsi ces 3 années dernières, il n'avait pas bougé, debout contre le parapet, devant cette Rome tant rêvée et tant souhaitée. Derrière lui, des arrivées et des départs brusques de voitures se succédaient. Les maigres Anglais et les Allemands lourds défilaient, après avoir donné à l'horizon classique les 5 minutes marquées dans le guide. Tandis que le cocher et le cheval de son fiacre attendaient complaisamment, la tête basse sous le grand soleil qui chauffait la valise restée seule sur la banquette. Et lui semblait s'être aminci encore dans sa soutane noire, comme élancé, immobile et fin, tout entier au spectacle sublime. Il avait maigri après Lourdes, son visage s'était fondu. Depuis que sa mère l'emportait de nouveau, le grand front droit, la tour intellectuelle qu'il devait à son père, semblait décroître, pendant que la bouche de bonté, un peu forte, le menton délicat, d'une infinie tendresse, dominait, disait son âme, qui brûlait aussi dans la flamme charitable des yeux. Ah ! De quels yeux tendres et ardents il la regardait, la Rome de son livre, la Rome nouvelle dont il avait fait le rêve. Si d'abord l'ensemble l'avait saisi, dans la douceur un peu voilée de l'admirable matinée, il distinguait maintenant des détails, il s'arrêtait à des monuments. Et c'était avec une joie enfantine qu'il les reconnaissait tous, pour les avoir longtemps étudiés sur des plans et dans des collections de photographies. Là, sous ses pieds, le Transtévère s'étendait au bas du Janicule, avec le chaos de ses vieilles maisons rougeâtres, dont les tuiles, mangées de soleil, cachaient le cours du Tibre. Il restait un peu surpris de l'aspect plat de la ville, regardée ainsi du haut de cette terrasse, comme nivelée par cette vue à vol d'oiseau. À peine bossuée des sept fameuses collines, une houle presque insensible au milieu de la mer élargie des façades. Là-bas, à droite, se détachant en violet sombre sur les lointains bleuâtres des monts Albins, c'était bien l'Aventin, avec ses trois églises à demi cachées parmi des feuillages, et c'était aussi le Palatin des Couronnés, qu'une ligne de cyprès bordait d'une frange noire. Le Caelius, derrière, se perdait, ne montrait que les arbres de la Villa Mattei, pâlis dans la poussière d'or du soleil. Seul le mince clocher et les deux petits dômes de Sainte-Marie-Majeure indiquaient le sommet de l'Esquilin, en face et très loin, à l'autre bout de la ville. Tandis que sur les hauteurs du Viminal, il n'apercevait, noyé de lumière, qu'une confusion de blocs blanchâtres, striés de petites raies brunes, sans doute des constructions récentes, pareilles à une carrière de pierres abandonnées. Longtemps, il chercha le Capitole, sans pouvoir le découvrir. Il dut s'orienter, il finit par se convaincre qu'il envoyait bien le campanile, en avant de Sainte-Marie-Majeure, là-bas, cette tour carrée, si modeste, qu'elle se perdait au milieu des toitures environnantes. Et à gauche, le Quirinal venait ensuite, reconnaissable à la longue façade du palais royal, cette façade d'hôpital ou de caserne, d'un jaune dur, plate et percée d'une infinité de fenêtres régulières. Mais, comme il achevait de se tourner, une soudaine vision l'immobilisa. En dehors de la ville, au-dessus des arbres du jardin Corsini, le dôme de Saint-Pierre lui apparaissait. Il semblait posé sur la verdure, et dans le ciel d'un bleu pur, il était lui-même d'un bleu de ciel si léger qu'il se confondait avec l'azur infini. En haut, la lanterne de pierre qui le surmonte, toute blanche et éblouissante de clarté, était comme suspendue. Pierre ne se lassait pas, et ses regards revenaient sans cesse d'un bout de l'horizon à l'autre. Il s'attardait aux nobles dentelures, à la grâce fière des monts de la Sabine et des monts Albins, semés de villes dont la ceinture bornait le ciel. La campagne romaine s'étendait par échappées immenses, nues et majestueuses, telles qu'un désert de mort, d'un vert glauque de mer stagnante. Et il finit par distinguer la tour basse et ronde du tombeau de Cecilia Metella, derrière lequel une mince ligne pâle indiquait l'antique voie appienne. Des débris d'aqueduc semaient l'herbe rase dans la poussière des monts écroulés. Et il ramenait ses regards, et c'était la ville de nouveau, le pêle-mêle des édifices au petit bonheur de la rencontre. Ici, tout près, il reconnaissait, à sa loggia tournée vers le fleuve, l'énorme cube fauve du palais Farnèse. Plus loin, cette coupole basse, à peine visible, devait être celle du Panthéon. Puis, par saut brusque, c'étaient les murs reblanchis de Saint-Paul hors les murs, pareils à ceux d'une grange colossale. Les statues qui couronnent Saint-Jean de Latran, légères, à peine grosses comme des insectes. Puis le pullulement des dômes, celui du Guézou, celui de Saint-Charles, celui de Saint-André de la Vallée, celui de Saint-Jean des Florentins, puis tant d'autres édifices encore, resplendissants de souvenirs. Le château Saint-Ange, dont la statue étincelait, la Villa Médicis, qui dominait la ville entière, la terrasse d'une Pincio, où blanchissaient des marbres parmi des arbres rares, les grands ombrages de la Villa Borghese, au loin, fermant l'horizon de leurs cimes vertes. Vainement, il chercha le Colisée. Le petit vent du nord, qui soufflait très doux, commençait pourtant à dissiper les buées matinales. Sur les lointains vaporeux, des quartiers entiers se dégageaient avec vigueur, tels que des promontoires dans une mer ensoleillée. Ça et là, parmi l'amoncellement indistinct des maisons, un pan de muraille blanche éclatait. Une rangée de vitres jetait des flammes, un jardin étalait une tache noire, d'une puissance de coloration surprenante. Et le reste, le pêle-mêle des rues, des places, les îlots sans fin, se mêlant tous sens, s'en mêlait, s'effaçait dans la gloire vivante du soleil, tandis que de hautes fumées blanches, montées des toits, traversaient avec lenteur l'infinie pureté du ciel. Mais bientôt, Pierre, par un secret instinct, ne s'intéressa plus qu'à trois points de l'horizon immense. Là-bas, la ligne de cyprès mince qui frangeait de noir la hauteur du Palatin l'émotionnait. Il n'apercevait derrière que le vide. Les palais des Césars avaient disparu, écroulés, rasés par le temps. Et il les évoquait. Il croyait les voir se dresser comme des fantômes d'or, vagues et tremblants dans la pourpre de la matinée splendide. Puis, ses regards retournaient à Saint-Pierre. Et là, le dôme était debout encore, abritant sous lui le Vatican qu'il savait être à côté, collé au flanc du colosse. Et il le trouvait triomphal, couleur du ciel, si solide et si vaste, qu'il lui apparaissait comme le roi géant, régnant sur la ville, vu de partout, éternellement. Puis, il reportait les yeux en face, vers l'autre mont, au Quirinal, où le palais du roi ne lui semblait plus qu'une caserne plate et basse, badigeonnée de jaune. Et toute l'histoire séculaire de Rome, avec ses continuels bouleversements, ses résurrections successives, étaient là. Pour lui, dans ce triangle symbolique, dans ces trois sommets qui se regardaient par-dessus le Tibre. La Rome, antique, épanouissant en un entassement de palais et de temples la fleur monstrueuse de la puissance et de la splendeur impériale. La Rome papale, victorieuse au Moyen-Âge, maîtresse du monde, faisant peser sur la chrétienté cette église colossale de la beauté reconquise. La Rome actuelle, celle qu'il ignorait, qu'il avait négligée, dont le palais royal, si nu, si froid, lui donnait une pauvre idée, l'idée d'une tentative bureaucratique et fâcheuse, d'un essai de modernité sacrilège sur une cité à part, qu'il aurait fallu laisser au rêve de l'avenir. Cette sensation presque pénible d'un présent importun, il l'écartait. Il ne voulait pas s'arrêter à tout un quartier neuf, toute une petite ville blafarde, en construction sans doute encore, qu'il voyait distinctement près de Saint-Pierre, au bord du fleuve. Sa Rome nouvelle, à lui, il l'avait rêvée, et il la rêvait encore, même en face du Palatin anéanti dans la poussière des siècles, du dôme de Saint-Pierre dont la grande ombre endormait le Vatican, du palais du Quirinal refait à neuf et repeint, régnant bourgeoisement sur les quartiers nouveaux, qui pullulaient de toutes parts, éventrant la vieille ville aux toits roux, éclatante sous le clair soleil matinal. La Rome nouvelle, le titre de son livre, se remit à flamboyer devant Pierre, et une autre songerie l'emporta. Il revécut son livre, après avoir revécu sa vie. Il l'avait écrit d'enthousiasme, utilisant les notes amassées au hasard, et la division en trois parties s'était tout de suite imposée. Le passé, le présent, l'avenir.